Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Et si même dans les situations les plus bloquées, là où tout semble fermé, il existait encore un chemin d'espérance. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Vivante Église. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Sainte Rita de Cassia, souvent appelée la Sainte de l'Impossible, une femme qui a traversé des épreuves, violences, deuil, conflits familiaux, qui a pourtant choisi d'aimer et de pardonner. Mais qui était-elle vraiment et pourquoi continue-t-elle de toucher autant de personnes aujourd'hui? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir en ligne Marie-Noëlle Villedieu de Torcy, auteure d'un petit ouvrage paru aux éditions des Béatitudes, « 9 jours avec Sainte Rita ». Marie-Noëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous entendez bien?
Oui, je vous entends très bien, pas de problème.
C'est parti, on est parti dans ce Vivante Église pour une rencontre avec Sainte Rita. Donc, vous êtes auteur de ce petit ouvrage. Pour commencer très simplement, Marie-Noëlle, qui était Sainte Rita, surnommée la Sainte de l'Impossible?
Oui, alors Sainte Rita a vécu il y a très longtemps. Elle est née en 1381 en Italie centrale, donc à 5 km de Cassia et 80 km d'Assise. Elle est morte en 1457 et donc elle a vécu dans une région qui a produit, qui a donné de nombreux saints. Saint François, que nous connaissons tous, hein, Saint François, Sainte Claire, Saint Benoît, Sainte Scolastique. Mais elle a vécu aussi à une époque qui était très troublée, très difficile, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la vendetta, c'est-à-dire la vengeance. Et quand il y avait donc un crime qui était commis dans un clan, dans une famille, il y allait de l'honneur des membres de la famille qui étaient atteintes, hein, de venger le défunt. Et c'était sans fin, c'était vraiment un cercle sans fin et cela décimait les familles. Donc il faut que je vous dise qu'il y avait deux partis à l'époque qui régnaient. Le parti des Gibelins, donc qui reconnaissait l'autorité de l'empereur, et les Guelfes, le parti des Guelfes qui, lui, était soumis au pape. Et donc c'était des conflits indéfinis qui se terminaient dans des bains de sang. Voilà.
Alors, il est important, Marie-Noëlle, de comprendre ce contexte de violent et de vendetta pour bien comprendre la vie de Sainte Rita.
Oui, tout à fait, parce que Rita va être confrontée à ce problème parce que son mari va faire partie du clan des Gibelins, donc contre le pape, alors qu'elle, évidemment, très, très bonne chrétienne, nous allons le voir, elle, évidemment, faisait partie plutôt du clan des Guelfes. Voilà.
Alors, elle est mariée, on va le comprendre très vite, à un homme qui est particulièrement violent. Comment elle vit cela?
Oui, alors cet homme est réputé pour être d'un caractère très difficile, violent, bagarreur, etc., etc. Donc, il a quand même demandé sa main à ses parents. Et donc, ses parents ont accordé Rita à ce jeune homme. Alors, comment a-t-elle fait? Bon, il faut vous dire aussi que déjà, la première difficulté, c'est que le jeune couple va vivre dans la maison de la belle famille, de sa belle famille. Donc, ça veut dire avec les parents, avec les frères de Paolo. Et tous sont donc du côté gibelin, comme je vous le disais. Donc, bagarreurs, enfin, se battant à tout instant et dans cet esprit de vengeance. Donc, c'est déjà une grande épreuve pour Rita. Et donc, en plus, elle doit faire face au caractère difficile et violent de son mari. Elle va s'en apercevoir quand même très, très vite. Alors, comment a-t-elle réagi? C'est ça qui est intéressant, je pense, pour nous, de voir qui sommes confrontés, nous aussi, à des épreuves, pas les mêmes, évidemment, peut-être même, mais pour voir un petit peu comment elle a fait. En tout cas, elle ne s'est jamais découragée. Et dès le début de son mariage, elle a tout mis en œuvre pour accepter son mari tel qu'il était et pour l'aimer tel qu'il était et lui manifester son amour. Son maître mot, toute sa vie, a toujours été « aimer comme le Christ a aimé ». Et en fait, très vite, elle a compris que derrière ce caractère difficile de son mari se cachait un cœur bon et honnête. Et donc, son but va être de l'aider à corriger ses défauts et de l'aider à se libérer de ce clan, à sortir de cette haine et de ces rivalités politiques qui emprisonnaient les hommes à l'époque. Voilà, elle va tout faire aussi pour le convaincre de mettre un terme à cette vie de violence.
Voilà. Qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement dans cette période et cette vie et ce contexte que vous nous relatez de Sainte Rita, Marie-Noëlle de Villedieu de Torcy, qui avait écrit ce petit ouvrage, qui est un petit ouvrage que je conseille aux auditeurs, qui est comme une forme de neuvaine à Sainte Rita. Et je rappelle qu'elle est souvent priée et connue aujourd'hui, on va en reparler au cours de l'émission, comme la sainte des cas un peu désespérés et impossibles.
Ce qui me frappe, c'est à la fois son courage vis-à-vis de la violence d'un homme, c'est pas toujours évident. C'est aussi sa confiance en Dieu. Elle a vraiment mis sa confiance en Dieu et sa confiance que son mari pouvait changer. Elle l'a vu à la naissance, ils ont eu deux fils, hein, des jumeaux apparemment. Et à la naissance de ces deux fils, son mari Paolo a complètement changé. Il était tout attendri, tout attentionné pour sa femme, pour ses enfants. Et là, même si ça n'a duré qu'une petite trêve, un petit temps, Rita a bien vu et bien compris que, en fait, derrière cette carapace, il y avait autre chose. Et que, donc, il pouvait changer. Et donc, elle a mis toute sa confiance en Dieu, en priant beaucoup, et puis en faisant, comme je vous disais, tous ces efforts, entre guillemets, hein, en mettant toute sa gentillesse, toute sa patience en œuvre. Mais elle a mis aussi toute sa confiance en Dieu. Bon, en plus, elle associait aussi à sa prière des jeûnes, des sacrifices qu'elle offrait pour la conversion de son mari.
Alors, quel va être le parcours de cet époux qui va se transformer au fil de son parcours?
Petit à petit, son mari va être rejoint, va être touché par la gentillesse, l'amour, la patience de sa femme. Et petit à petit, effectivement, donc elle va réussir par le dialogue et surtout par l'exemple, adoucir la dureté du caractère de son mari. Voilà qu'un jour, son mari, il va comprendre qu'il est en train de, qu'il a en face de lui une femme qu'il aime et qu'il est en train de la maltraiter. Voilà. Et tout d'un coup, il se met, vraiment la grâce le rejoint, il se jette aux pieds de sa femme, il lui demande pardon. Et à partir de là, tout va changer. La vie de famille va être complètement transformée et le bonheur, vraiment, un véritable bonheur va s'installer dans la famille.
Son époux va être assassiné ?
Ah oui, tout à fait. Alors aussi, avant de parler de cela, juste je rajouterai une chose, c'est que donc après sa conversion vraiment radicale, la famille va déménager, ils vont tout changer de vie. Donc Paolo va renoncer à cette vie de violence, va quitter sa famille, quitter son clan. Ils vont aller s'installer dans un moulin dont il avait hérité. Et là, il va changer de métier aussi. Et à la demande de sa femme, il va accepter de ne plus porter d'armes sur lui pour éviter la tentation de les utiliser. Et ça, c'est important.
Donc signe aussi de ce que vous avez nommé d'un grand tournant dans la vie de cet époux. C'est un tournant qu'on peut appeler une conversion totale.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Conversion radicale, fulgurante aussi, quand même assez rapide, un peu du tout au tout. Quoi. Ouais, voilà.
C'est de l'ordre du miracle. On est un peu dans l'impossible.
Ah, oui,
c'est un revirement total d'un époux.
On est dans l'impossible.
Parce que là, vous avez permettez-moi, vous avez décrit depuis le début de l'émission l'époux de Sainte Rita, un homme particulièrement violent qui maltraitait son épouse Rita.
Certainement. On ne sait pas exactement jusqu'où ça allait, mais c'est sûr que il y avait des colères, des injures. Au niveau de la violence physique, on n'est pas très sûr. Hein, on ne sait pas exactement jusqu'où il est allé.
Alors, ils ont eu donc deux garçons. Comment ont grandi ces deux fils ?
Oui, voilà, tout à fait.
Comment ont-ils grandi, ces garçons ?
Alors, ils ont grandi tout d'abord, évidemment, avec la maman. Hein. C'est sûr que Rita leur a donné une éducation chrétienne, une éducation soignée, leur a transmis la foi. Elle les emmenait aussi régulièrement pour s'occuper des pauvres et des malades dont elle s'occupait aussi. Mais très vite, elle a quand même vu dans ses fils très très vite qu'ils ressemblaient au niveau du caractère beaucoup plus à leur père qu'à elle-même. Et c'est sûr que ça l'a attristée un petit peu. Voilà. Nous allons voir aussi dans la suite.
Alors oui, on vous écoute pour la suite.
Alors la suite, donc effectivement, donc après sa conversion, donc un temps de bonheur, effectivement, qui n'a pas duré, enfin qui a duré quand même assez longtemps. On n'est pas très sûr au niveau des dates, hein, c'est pour ça que je mets un petit peu des bémols. Bon, ce bonheur n'a pas duré, enfin, a duré quand même quelques années, hein, mais l'épreuve est revenue frapper à la porte de Rita. En effet, donc un soir, alors que Paolo regagnait le domicile familial, il est pris en embuscade et assassiné, on suppose par d'anciens ennemis. Voilà, il serait mort donc tout près du moulin où ils habitaient, et donc Rita aurait entendu les cris de son mari, se serait précipitée à son secours et aurait recueilli donc le dernier soupir de Paolo. Paolo, avant de mourir, pareil, aurait pardonné à son agresseur. Voilà. Alors le problème, effectivement, Rita a dû reconnaître l'assassin ou les assassins, on n'est pas très sûr hein, s'il y en avait un ou plusieurs, a dû les reconnaître et donc connaissait leur nom. Et donc, il aurait suffi qu'elle les dénonce, qu'elle donne les noms ou le nom à son beau-père et à ses beaux-frères. Et comme c'était la coutume, eh bien, très vite, ça aurait été le cercle de la vengeance. Or, malgré les pressions familiales, Rita va se taire. Elle ne veut pas entrer dans cette logique de la vengeance. Avec la force de sa foi et de sa charité, elle veut au contraire rompre cette spirale de la violence. Elle ne va jamais livrer le nom des assassins de son mari. Elle ne va pas cesser d'ailleurs de prier pour eux.
Alors, comment on pourrait comprendre ce choix aujourd'hui? Parce qu'elle choisit le pardon, elle choisit de ne pas dénoncer.
Oui, exactement.
Comment, à la lecture de ce monde d'aujourd'hui, qui invite, hein, si on regarde ce parcours de Rita, dans ses choix, dans ses options, qui, elle, n'invite pas à la vengeance, on comprend bien, mais à pardonner.
Exactement. Ben, je pense qu'on est
Pardonner
confronté
l'impossible
au même.
parfois.
Voilà, on est confronté au même problème. Hein.
Oui,
Le pardon est
oui.
toujours difficile. Moi, je crois que
Qu'est-ce qu'elle
là,
peut
il faut.
dire, qu'est-ce qu'elle peut dire pour aujourd'hui, Sainte Rita, autour de cette question du pardon?
Ouais. Bah, il faut une grande force d'âme et vraiment puiser dans la force bah, de la croix du Christ, vraiment qui lui aussi a pardonné à ses ennemis en disant sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que le pardon, il se reçoit aussi, hein, c'est une grâce à demander. Moi, je dis toujours, quelquefois, on ne peut pas pardonner. Par contre, on peut vouloir pardonner. Et là, c'est ça qui est important, de vouloir pardonner et de demander la grâce au Seigneur de pardonner. De venir même pardonner en nous, en chacun de nous. Hein. Parce que c'est vrai que le pardon, bah, il n'y a que Dieu, hein, qui peut vraiment pardonner.
Qu'est-ce qui vous a frappé, vous particulièrement, dans cette vie de femme, dans cette vie d'épouse, de mère? Et puis on va découvrir dans cette deuxième partie, dans quelques minutes de l'émission Vivante Église, un peu cette femme aussi profondément mystique. Hein, mais vous particulièrement, que vous dit-elle? Quel est un petit peu le testament qu'elle vous laisse?
Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, j'en parlerai encore hein, dans la deuxième
Mais
partie.
oui.
Ce qui est important, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'elle était, comment dire, elle voulait aussi sauver l'âme de son mari, et donc apparemment elle a réussi, entre guillemets, hein, puisqu'il s'est converti, à pardonner à ses ennemis, et aussi sauver l'âme de ses deux fils, de ses enfants, qui eux ne pensaient qu'à la vengeance. Et donc, ce qu'elle mettait en avant, vraiment, c'était ces dimensions spirituelles, la plus importante, hein, c'est sûr. Voilà. Et donc, elle a demandé, je ne sais pas si je peux en parler là maintenant,
Oui,
hein,
allez-y, allez-y.
voyant que ses fils, bah, eux, ne rêvaient que de vengeance. Hein, pourtant, on ne sait pas exactement quel âge ils avaient, mais bon, disons que c'était quand même leur rêve et leur but, hein, de venger leur père. Et voyant qu'ils ne l'écoutaient pas, Rita finalement s'est tournée vers le Seigneur et a fait une prière, alors qui aujourd'hui pourrait paraître vraiment incompréhensible peut-être, hein, en demandant au Seigneur de les reprendre plutôt que de les voir commettre un crime et perdre leur âme. Vraiment, ça, c'était toute sa prière et tout son désir, bah, qu'il soit sauvé.
Alors,
Et
cette
voilà ce qu'il
prière
dit.
que vous venez de nommer, de Sainte Rita, peut paraître impossible à comprendre au jour d'aujourd'hui, peut-être. Et même
Exactement.
parmi ceux qui vous écoutent et qui découvrent peut-être ce parcours de Sainte Rita.
Exactement, d'autant plus qu'elle a été exaucée, puisque les deux fils sont tombés malades quelque temps après, sont morts l'un après l'autre à une semaine d'intervalle, mais en ayant pardonné à l'assassin de leur père,
Donc,
avant de mourir.
le souci premier qu'on peut entendre de Sainte Rita, c'est ce souci pour ses deux fils et d'un époux, ce souci de la vie éternelle. Donc, il est question
Voilà,
pour Sainte Rita,
exactement.
voilà, en résumé, le cœur de cette émission, si on devait retenir aussi l'impact de Rita dans les causes désespérées et impossibles, c'est une intervention pour cette vie éternelle. L'âme de
Voilà,
son époux, l'âme de ses enfants.
exactement.
C'est ça que nous
Exactement.
devons comprendre.
Oui, voilà. Bon, il n'y a pas que ça à retenir,
Entre.
mais disons que c'est une partie importante, je pense, effectivement, de sa spiritualité. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous aimez particulièrement, vous, de sa spiritualité que nous allons découvrir un peu plus tard?
Eh bien, moi, je dirais, c'est vraiment sa confiance en Dieu, sa confiance inébranlable, et un petit peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelques siècles plus tard, Sainte Thérèse qui a dit « Je ne me découragerai jamais », ben, Sainte Rita, elle l'a vécu. On n'a aucune parole de Sainte Rita, elle n'a rien écrit de son vivant, on n'a rien écrit non plus sur elle de son vivant, mais je pense qu'elle l'a vraiment vécu, elle ne s'est jamais découragée.
Alors, au fond, comment on peut parler, évoquer Sainte Rita s'il n'y a aucun écrit de Sainte Rita et si les dates, hein, parfois vous revenez aussi sur les dates, ne
Oui.
correspondent pas toujours?
Exactement. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'elle n'a été béatifiée que 2 siècles après sa mort. C'est quand même très tard. Et alors donc pour sa béatification, ben, on était un petit peu embêtés entre guillemets puisqu'on avait très peu d'éléments. Alors il y a eu quand même quelques... Il y a eu une première biographie qui a été faite en 1610 qui retrace la vie de Sainte Rita. Et comme nous allons le voir plus tard, donc elle a été religieuse, et effectivement les religieuses, bah, là, connaissent bien sa vie. Disons qu'il y a quand même plus d'éléments pour la deuxième partie de sa vie. Ce qui manque, c'est pour cette première partie de sa vie. Alors, on a quand même des images, des images qui ont été faites sur le cercueil. Il y a aussi certaines choses qui ont été faites. On a quelques éléments quand même. On n'invente pas la vie de Sainte Rita quand même.
Et donc on parle de Sainte Rita, oui, la sainte des causes impossibles. Je crois qu'elle fait partie encore des saintes qui sont invoquées et parfois par des personnes qui sont peut-être encore loin de la foi. Sainte Rita est invoquée pour les causes si souvent impossibles et parfois désespérées. On va marquer une pause musicale, Marie-Noëlle Lévy-Dieu de Torcy. Et on va se retrouver juste après pour continuer un peu à découvrir cette sainte de l'impossible et entrer davantage dans cette dimension de sa vie, cette dimension spirituelle où elle va plus loin, elle donne tout et elle se donne entièrement. On se retrouve juste après.
Quelques accords de guitare, on a grandi sur le même sol. Les mêmes silences, la même boussole. On a usé nos genoux sur les mêmes graviers. On a construit des châteaux que le temps a balayés. T'as toujours eu ce sourire qui cachait tes tempêtes. Et moi je marchais dans ton ombre un peu seul dans ma tête. Mais quand le vent soufflait trop fort sur la maison, on se tenait par la manche, on avait nos raisons. Et même si la vie nous éloigne un peu parfois, je n'ai besoin que d'un regard pour retrouver ma voix. T'es mon frère, t'es mon sang, t'es ma ligne de mire, celui qui me retient quand je suis prêt à fuir. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre, t'es la seule main que je n'ai jamais peur de prendre. Mon frère, mon sang, jusqu'à la fin, le même chemin, le même destin. On a changé d'armure, on a pris quelques coups. Les amours qui se cassent et qui nous rendent fous. T'as fait ta route à l'est,
Juste moi j'ai cherché la mer, mais il n'y a pas de distance pour deux enfants d'hier. Je garde dans ma poche la clé de tes secrets. Tu sais que ma porte est ouverte à jamais.
Les années vont passer, les cheveux vont blanchir. On aura d'autres batailles, d'autres peurs à guérir. Mais la seule vérité qui défie les saisons, c'est qu'on est fait du même bois, de la même chanson. T'es mon frère, t'es mon sang, t'es ma ligne de mire. Celui qui me retient quand je suis prêt à fuir. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. T'es la seule main que je n'ai jamais peur de prendre. Mon frère, mon sang, jusqu'à la fin. Le même chemin, le même destin.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
C'est la suite de ce Vivante Église. Aujourd'hui, on revient sur la vie de Sainte Rita, une figure qui peut surprendre, souvent appelée la Sainte de l'Impossible. Pour nous accompagner, toujours avec nous par téléphone, Marie-Noëlle Villedieu de Torcy, auteur de ce petit livre de prière, « Neuf jours avec Sainte Rita », un livre paru aux éditions des Béatitudes. Marie-Noëlle, avant cette pause musicale, nous évoquions ce début de vie d'épouse, de mère de Sainte Rita, qui a obtenu avec cette prière incessante, ses offrandes, ses jeûnes, au fond, la conversion de son époux, la conversion de ses enfants. Alors, vous nous avez rappelé qu'on connaît, il n'y a aucun écrit sur Sainte Rita. Les dates ne correspondent pas toujours, mais ce que l'on sait de Sainte Rita, c'est que c'est une mystique qui, après le deuil d'un époux et de ses deux enfants, va donner entièrement sa vie au Christ dans la vie religieuse. Et c'est un peu la deuxième partie de ce Vivante Église. Racontez-nous un petit peu cette entrée et ce choix de Rita.
Oui, alors c'est sûr que Rita, en fait, elle désirait depuis son enfance se consacrer au Seigneur. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc elle a été un petit peu forcée, contrainte un peu par ses parents à se marier. Et elle y a consenti, y voyant la volonté de Dieu. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, elle avait reçu un appel du Seigneur, donc elle voulait entrer au monastère des Augustines à Cachia. Elle avait entendu le Seigneur lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc là, elle avait ressenti comme un appel à lui consacrer toute sa vie, donc dans la prière et la vie religieuse. Voilà, donc vocation contrariée pour un temps, mais c'est vrai qu'une fois veuve, n'ayant plus d'obligation familiale, ce désir de se consacrer au Seigneur entièrement est revenu. Et donc, elle est allée frapper à la porte du monastère des Augustines. Voilà, et contre toute attente, elle a dû essuyer trois refus. L'abbesse, pourtant qui la connaissait bien, a refusé de la recevoir. Alors, le prétexte allégué, c'était qu'il n'acceptait que des vierges, mais ce n'était pas la véritable raison. En fait, la véritable raison, certainement, c'était que la sœur de Paolo, donc Caterina Mancini, était aussi religieuse dans ce même monastère. Et elle aurait opposé un veto à l'entrée de Rita au monastère pour... en fait, essayer de la contraindre de cette manière à révéler donc le nom de l'assassin de son frère. Voilà, je pense que cette raison est beaucoup plus valable. Voilà, et donc, pour un temps, on lui a dit, ben non, impossible, parce que votre entrée va semer la division. Et donc, on a demandé à ce moment-là de réconcilier les familles de Cachia. Ce serait un petit peu le sésame pour son entrée au monastère.
Alors, on fait vite, hein. On ne peut pas tout dire de Sainte Rita, mais on peut la découvrir ou donner le goût d'aller plus loin. Quand on évoque Rita, on parle de signes, on parle d'une profonde vie intérieure, on parle d'une mystique. Est-ce qu'on peut dire que Sainte Rita entre peu à peu dans une véritable vie mystique, puisqu'on va aller, et on va parler aussi de signes visibles, de stigmates. Voilà, alors dites-nous quelle est la signification chez Rita en particulier. Ce signe visible des stigmates.
D'accord.
Oui.
Oui. Alors en fait, donc elle est quand même entrée au monastère après avoir obtenu quand même l'impossible. Il faut quand même le souligner, elle a obtenu l'impossible. La réconciliation de toutes ses familles ennemies. Ça, c'était vraiment peu prévisible. Et donc, je peux parler aussi du signe de la vigne aussi ou de du petit miracle de la vigne. Est-ce que j'ai le temps d'en parler, l'évoquer rapidement? Donc, après son entrée au monastère, l'abbesse voulait quand même tester un peu son obéissance. Voilà qu'elle lui a demandé d'arroser matin et soir un sup desséché. Donc, un catome, hein, j'ai mangé ça. Et donc, Rita l'a fait. Alors que ses sœurs se louquaient d'elle, elle l'a fait pendant un an, avec amour, avec fidélité. Et voilà qu'au bout d'un an, ce cep a fleuri
bien
et a donné une vigne merveilleuse. Ça a été voir encore aujourd'hui à Cachet. Et donc, parmi la dévotion de Saint, qui était très proche du Seigneur, d'autres qui avaient vraiment une relation très proche et très, très intime avec ses sœurs, et elle a fait une dévotion toute particulière à sa passion. Elle contemplait beaucoup la passion du Seigneur. Et donc, voilà qu'avant de donner Saint, ou un prêtre donc prêchait sur la passion. Elle a été très touchée par la parole du prêtre et elle a demandé au Seigneur de partager ses souffrances et notamment son couronnement d'épines. Voilà que du petit-fils devant lequel elle priait, une épine s'est détachée de la couronne d'épines de Jésus et est venue se planter sur son front. Et voilà, donc elle a eu cette pendant 15 ans. Alors, ce stigmate qui ne se laissait pas soigner, c'était une blessure permanente qui la faisait souffrir jour et nuit et malodorante. C'est-à-dire que tout le monde s'écartait, on ne l'a pas approché tellement l'odeur était forte. Donc, elle a vécu un peu isolée, de recluse pendant 15 ans de sa vie.
Voilà. Pourquoi est-elle autant priée encore aujourd'hui?
Eh oui, c'est vrai qu'elle est, après la Vierge Marie, la sainte la plus priée au monde, a dit Jean-Paul II, avec Saint-Antoine.
Saint-Antoine de Padoue. Alors, hein.
Saint-Antoine de Padoue, exactement. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'elle exauce encore énormément.
Il y a énormément d'exaucement de grâce reçu par son intercession. C'est absolument quand même près de 600 dons après. C'est absolument incroyable. Hein. On appelle l'avocate des causes impossibles, voire désespérées. Et c'est vrai que quand on a un petit problème, on dit facilement, prie Sainte Rita. Et si on la connaît de nom, on la connaît quand même. Tout le monde la connaît. Et de fait, elle est très fidèle dans son intercession.
Alors, vous proposez une neuvaine avec ce petit ouvrage qui est paru récemment aux éditions des Béatitudes. Pourquoi ce choix
de
proposer une neuvaine avec ce petit livret.
Oui. Bah, écoutez, ça m'est un petit peu tombé dessus. Je dois dire que Sainte Rita aussi, de présenter à moi de venir tout casser inattendu. J'étais devant une pause que je jugeais peut-être pas désespérée, mais prenant la scène impossible. J'ai commencé à faire une neuvaine à Sainte Rita en disant tout simplement une dizaine de « Je vous salue Marie ». Je me suis aperçue que je ne connaissais pas sa vie et donc je me suis mis à lire plusieurs livres sur sa vie. Et comme les fictions donc, sont juste à côté, là où j'habite, hein, on m'a proposé de faire ce 9 jours. C'est avec Sainte Rita et je vous que c'est très facile. Vraiment, Rita a été une aide très, très précieuse. En fait, le but de la nouvelle, c'est de connaître la vie de Sainte Rita. Donc, vous verrez dans la partie centrale qui est la méditation.
Ce serait bien des 10 minutes.
Voilà, il y a un épisode de sa vie. Et ensuite, à partir de sa vie, il y a une méditation sur un thème.
moi qui est venu, que j'ai choisi aussi, voilà.
Un exemple de thème, Marie-Noël.
Pardon.
Un exemple de thème.
Un exemple de thème. Alors, par exemple, dans la deuxième journée, tu as de prix à mes yeux. Donc, on évoque un épisode de la vie de Rita qui est absolument extraordinaire, qui est miraculeux, puisqu'elle a été, alors, était très jeune enfant, hein, bébé plutôt. Elle a été entourée d'un essaim d'abeilles, d'abeilles blanches, autour d'elle, qui, certes, elle entrait et sortait dans sa bouche et sortait, mais sans lui faire du mal. Il y a eu même la guérison d'un ouvrier blessé qui passait par là, et donc qui a essayé de chasser l'abeille. Et il a été guéri. Et donc, je pose un peu la question, y a-t-il des âmes privilégiées? Est-ce que le Seigneur aime certaines personnes plus que d'autres? Pourquoi il y a un miracle? Voilà, donc j'essaie de répondre un petit peu à cette question. Et puis, en allant un petit peu plus loin, bah, je dis, en fait, nous, en tant que baptisés, nous avons reçu aussi des grâces extraordinaires à notre baptême. Et donc, c'est bon d'en faire mémoire, nous sommes dans le temps passé, hein, d'en faire mémoire, de se remémorer vraiment toutes ces grâces que le Seigneur nous a obtenues par sa mort et sa résurrection. Voilà, donc ça c'est un des thèmes, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein. Le thème de l'épreuve, du pardon, évidemment, l'épreuve, la souffrance, c'est un des thèmes que j'aborde dans ce petit livre.
Qu'est-ce qui vous paraît, au fond, quand on décrit la vie de Sainte Rita, la Sainte des causes désespérées, la Sainte de l'impossible, qu'est-ce qu'elle peut dire pour le monde d'aujourd'hui, dans un monde confus, dans un monde de guerre, où le pardon est bien difficile à poser, parfois entre proches, entre voisins, entre communautés, entre pays? Elle montre ce chemin aussi de réconciliation et ce chemin... elle l'a vécu, elle a posé ses actes de pardon. Que peut-elle dire pour l'aujourd'hui?
Alors, moi, je trouve qu'elle est vraiment d'actualité. Non seulement parce qu'elle est beaucoup priée, mais parce que les épreuves, elle a été vraiment la sainte qui a vécu des épreuves tout au long de sa vie. Ça, c'est épreuve après épreuve. Et elle a eu cette force, ce courage, cette confiance en Dieu, vraiment pour traverser les épreuves. Et je pense qu'actuellement, tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, est confronté à des épreuves. Hein. Les épreuves sont malheureusement toujours d'actualité. Et que Jean-Paul II, lors du centenaire de la canonisation de Rita, l'a proposé comme modèle famille, hein, pour mettre en avant tout l'amour que Rita a mis aussi envers son mari et ses enfants, mais aussi comme modèle de pardon, modèle d'espérance, modèle de foi, modèle de confiance en Dieu. Je pense que tout cela, vraiment, c'est bon. C'est un message pour nous aujourd'hui. Elle a toujours été enracinée vraiment aussi dans l'amour de Dieu, l'amour du Christ, hein, vraiment un amour très très fort. C'était son roc. C'est là-dessus qu'elle s'est vraiment appuyée sur cet amour pour aller de l'avant et traverser toutes ses épreuves.
Quelle grâce demander à Sainte Rita?
Pardon, je n'ai pas compris.
Quelle grâce demander à Sainte Rita?
Ah oui, ouais. On peut tout lui demander.
On peut tout lui demander, vous n'hésitez
Alors, hein. Je dis, vraiment, n'hésitez pas à tout lui demander. Alors, de problèmes personnels, on peut lui présenter toutes ces situations impossibles, difficiles, où on se dit humainement parlant, je ne peux rien faire. Mais moi, je propose aussi de demander des grâces d'ordre spirituel aussi. Hein, des grâces de pardon, des grâces de conversion, des grâces de guérison. Toutes les grâces, des grâces de force, de courage dans l'épreuve, par exemple, des grâces de prière. Elle priait énormément, elle avait vraiment une vie d'intimité avec le Seigneur, et ça depuis très jeune. Je pense que toutes ces grâces-là, elle peut aussi nous les donner, elle peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Voilà, on peut lui confier telle personne, telle situation difficile, tel problème insoluble. Et puis lui demander toutes ces grâces de paix, de joie, de pardon, de réconciliation, qui est vraiment aussi la sainte qui a obtenu beaucoup de réconciliation dans les familles. Voilà.
Donc, elle intercède pour tout. Elle intercède pour toutes les causes. Quand on vous écoute et qu'on vous demande comment demander une intercession et quelle intercession demander à Sainte Rita, eh bien, elle intercède pour tout. Si quelqu'un nous écoute, Marie-Noël Villedieu de Torcy, aujourd'hui, qui est peut-être dans une situation difficile ou qui ne sait pas par où commencer, vous lui diriez quoi?
de faire juste un petit acte de confiance. Petit acte de confiance. En disant, par exemple, tout simplement cette prière que Jésus lui-même a proposée à un prêtre qui s'appelle Père Galindo, j'en parle dans ma petite neuvaine, où Jésus lui a dit de dire « Seigneur, je te confie telle situation difficile, je te confie telle personne, c'est à toi d'y penser. » Moi, je traduis un peu différemment, je dis « c'est à toi de t'en occuper ». Et la première fois où j'ai fait cette prière, j'ai eu l'impression d'être déchargée des soucis que j'avais. J'étais libérée. C'était vraiment impressionnant. Bon, c'était la première fois où j'ai vraiment ressenti physiquement l'effet de la prière. Maintenant, quand je le fais, ça n'est plus le cas, mais ça n'est pas grave. Et je crois que juste cette petite prière d'abandon un petit peu entre les mains du Seigneur, « Seigneur, je te confie ». Avec cet acte de foi et un peu de lâcher prise. Donc, il y a un petit peu les deux. Quelquefois, on confie des problèmes au Seigneur, mais finalement, on les garde un petit peu. On veut quand même gérer la situation, maîtriser, voilà, et trouver tout seul la solution. Ben non, le Seigneur, lui, il a certainement une solution pour chacun de nos problèmes. Peut-être pas celle à laquelle on s'attend, c'est vrai. Mais il a certainement, il veut notre bonheur, hein, il veut vraiment le meilleur pour nous. Et ça aussi, c'est un petit acte de confiance. À faire.
Et nous, on veut le meilleur pour chacun de nos auditeurs. Je vais vous proposer de choisir peut-être dans ce petit livret qui est par édition des Béatitudes, qui se présente comme une neuvaine à Sainte Rita, peut-être une prière à faire à Sainte Rita. Oui. Et c'est ainsi que nous pouvons terminer ce Vivante Église, court certes, mais on peut aller plus loin dans la vie de Sainte Rita, qui, vous l'avez rappelé, est la deuxième sainte avec, je crois, Saint Antoine de Padoue à être encore prié fortement. Beaucoup demandent son intercession. Donc, chers auditeurs, apprenez à découvrir Sainte Rita, à prier Sainte Rita. Et puis, on vous écoute, hein, Marie-Noël, Villedieu de Torcy.
D'accord. Ô bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ, en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit-Saint, écoute la prière que nous te présentons humblement et avec confiance. Intercède auprès du Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour, sans jamais désespérer.
Très belle prière que l'on peut adresser donc à Sainte Rita, qu'on peut retrouver aussi, et ceux et celles qui souhaitent faire une neuvaine pour une cause bien particulière où tout paraît impossible, mais rien n'est impossible à Sainte Rita, comme vous l'avez souligné tout au long de ce Vivante Église, Marie-Noël, eh bien, vous pouvez vous procurer ce petit livret. Il se fait très facilement, donc une neuvaine, c'est sur 9 jours. Voilà. Un dernier mot, Marie-Noël, pour les auditeurs.
Oui, alors, je précise juste pour la neuvaine, la fête de Sainte Rita est le 22 mai. Donc, il y a une neuvaine qui est proposée, donc du 14 au 22 mai, pour tous les auditeurs qui voudraient s'y associer.
Voilà, donc neuvaine pour peut-être une cause grave, une cause difficile à traverser, une période de la vie, en fait, des moments de la vie difficiles à traverser où on demande parfois l'intercession de saints. Donc, cette neuvaine peut débuter à partir du 14 mai pour célébrer en église le 22 mai la fête de Sainte Rita. Merci à vous, Marie-Noël Villedieu de Torcy. Et puis, nous prions avec vous, Sainte Rita, pour toutes les causes impossibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.
Oui, au revoir. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.